veut pas. Il leur reste moins d'une heure pour tout installer. Bientôt, Hans Krása fera résonner les notes de Brundibar. La mission de l'opéra ? Apporter aux innocents un ticket en ligne directe vers l'évasion de l'esprit et vers l'espoir. Les enfants du chœur, déjà, les attendent, frigorifiés par la température automnale qui chute subitement en ce début de soirée. Parmi eux, Ella Stein-Weisberger, 11 ans. Elle a hérité du rôle du chat, car oui. Oui, l'opéra est une allégorie. L'histoire raconte les péripéties des petits Pepicek et Annika, des malheureux, qui tentent de gagner des maigres sous en chantant dans la rue. Ils doivent acheter des médicaments et du lait pour leur mère souffrante. Mais durant leur prestation, ils sont agressés par un organiste violent, Brundibar. Ils sont rejetés. Pour s'en sortir, le frère et la sœur vont devoir s'allier avec des animaux sachant parler. Moineau, chien et chat, le personnage de Ella. La petite fille stressée a répété son rôle chaque nuit alors que Morphée se refusait à elle. L'estomac tordu par la faim, le sommeil est devenu une denrée rare dans le ghetto. Mais bientôt, l'effervescence du moment, pour quelques heures, prend le dessus. La crainte disparaît, évaporée derrière les notes et l'histoire magique de cet opéra qui voit la justice et le camp du bien s'imposer face au mal. Chaque spectateur dans l'assistance, en découvrant l'adaptation de l'œuvre, est saisi au cœur. C'est grâce au sens profond du message véhiculé par ces enfants prisonniers. Hans Krása se surprend à pleurer à chaudes larmes à la fin du concert. C'est un triomphe. Bientôt, le ghetto ne parle plus que de ça. Tout dans l'œuvre du compositeur appelle à la lutte, à l'espérance. En moins d'un an, Brundibar va être joué à plus de 50 reprises dans le camp. Chaque fois, l'assistance en redemande. Mais bientôt, il faut se rendre à l'évidence. La Shoah prend un essor considérable. Le régime hitlérien n'a plus besoin de vitrines. Les 50 000 détenus du ghetto sont bientôt considérés comme des cibles à éliminer. Krása, Zelenka et les autres innocents enfermés à Theresienstadt vont être déportés à Auschwitz et mourir pour la plupart. La petite Ella, elle, va survivre à l'horreur. Preuve que le nazisme n'a pas pu éteindre toutes les lueurs de vie qu'il a cherché à martyriser. La production culturelle de ce ghetto, si elle est particulière, n'est pas unique. Au milieu de ce système mortifère et génocidaire, le rapport à la musique est central. Dans les camps, les déportés partent au travail sous le patronage de chants, et même parfois sous le son des orchestres. Le système militaire nazi se transpose à celui des camps, où la musique devient une compagne quotidienne. D'abord concentrée entre les mains des bourreaux, l'usage musical va considérablement évoluer. Les détenus vont s'en emparer, le détourner, mieux, en faire un instrument d'espoir et de lutte. La dernière lubie, la construction d'un manège équestre qui permet à Ilse Koch de monter à cheval, tout près des baraquements où la souffrance s'exprime à plein régime. Parmi les prisonniers, Hermann Leopoldi s'est fondu dans la masse. Il est pourtant une star de l'entre-deux-guerres, une figure de la scène du cabaret viennois. Mais depuis l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche au Reich, tout a changé. L'agrégation est effective depuis quelques mois et l'artiste juif a été raflé. Alors qu'ils tentaient de prendre la fuite avec sa famille, leur train à Vienne a été intercepté par les SS. Ces idéologues aux habits noirs sont les pires hommes de main du Reich. Un admirateur du chanteur a permis à la famille Leopoldi de se faufiler par une porte dérobée. Hélas, il fut arrêté et déporté, à contrario de sa famille. Dachau, puis ici, à Buchenwald, où il n'a de cesse d'être sollicité par le commandant du camp. Miloman Koch se promène régulièrement parmi les prisonniers terrorisés. Il y a quelques semaines, Il a organisé un concours. Le camp doit pouvoir avoir son hymne. Léopoldi, avec l'aide du librettiste Leonard Beda, a participé et remporté le concours. La chanson de Buchenwald est ainsi née. Le vainqueur, qui devait remporter un prix, n'en vit jamais la couleur. L'important n'est pas là. Avec sa victoire, Léopoldi s'est attiré la sympathie du commandant du camp. Les capots le laissent tranquille. Tous ne peuvent pas en dire autant. L'officier, dans une tenue immaculée, contraste au milieu des innocents décharnés et malades qu'il s'emploie à torturer. À chacun son dû, sa devise trône au-dessus du portail d'entrée du camp. Ravi de l'hymne récemment composé, le commandant le fait chanter aux détenus 3 fois par jour. Il est si aveugle, d'aucuns diraient idiot, qu'il n'en a pas compris le sens profond. Léopoldi a composé un chant de résistance. Qu'importe, cette œuvre militaire permet aux enfermés de marcher au pas et de ne pas mouffeter. Mais pour Koch, un chant, ce n'est pas suffisant. Non, il veut plus. De retour de déplacement à Dachau, il laisse exploser une jalousie terrible. Le commandant, là-bas, s'est constitué un véritable orchestre. Pourquoi lui, le plus grand mélomane de la SS, n'aurait-il pas le sien? Après tout, un orchestre de camp, pour ses tortionnaires, est un gage de prestige. Rien ne sera trop beau pour équiper ses musiciens. Koch a fait réquisitionner les uniformes de la garde royale yougoslave. Noir à liseré jaune, les tenues sont distribuées à des musiciens triés sur le volet. On va même leur commander des instruments neufs. Les détenus qui savent jouer correctement sont admis. Pour les autres, qualifiés de chanceux, les membres de l'orchestre seraient osés. Et pourtant, au cœur de l'horreur, le mégalomane Koch préserve les musiciens. Un bloc pour eux seuls, une douche de temps à autre. Le statut des détenus jouant pour le commandant du camp est à des années-lumière de celui des autres déportés.
Wie ich dann eilig rumspazier, da war mir fad, drum denk ich mir, ich kauf mir fürs Apollo eine Karten. Da seh ich eine blond und groß, auch die Figur war tadellos. Ich denk mir, auf die wirst du noch erwarten. Wir sitzen in derselben Reihe und als das Kino war vorbei, da hab ich mich an sie herangepirscht. Sie hat sich zwar zuerst geniert, doch als ich sie dann ausgeführt, gleich hab ich mich gefühlt als wie ein Fürst.
Léopoldi, lui, va pouvoir remercier sa bonne étoile. Bien arrivé au pays de l'oncle Sam, sa femme et sa fille ne vont pas hésiter à jouer toutes les cartes possibles pour le faire libérer. Grâce à une énorme protection RC aux nazis, c'est chose faite. À la fin de l'année 1938, le chanteur échappe de peu à l'horreur de la déportation et est extradé vers les États-Unis. Buchenwald, comme tous les camps, s'apprête de son côté à devenir une arme de destruction massive. Dès la naissance de l'idéologie nazie, la musique, et plus particulièrement la grande musique germanique incarnée par Wagner ou Mozart, prend une place toute particulière. À côté de ses œuvres, l'art musical militaire prend aussi toute sa place. Les marches et autres ouvrages binaires régentent la vie des garnisons, mais aussi celle des camps. Très vite, la lubie des commandants concernant les orchestres devient une obsession. La théorisation de la Shoah, bien plus encore que les premières vagues de déportation, provoque l'internement de très nombreux juifs, prisonniers politiques, tziganes, homosexuels ou handicapés. Le tout au sein de 3 types de structures qu'il faut absolument distinguer. Les camps de travail, les camps de concentration et enfin, les camps de la mort. Il est rare que les équipes des camps puissent commander des instruments comme le mégalo Koch a pu le faire à Buchenwald. La plupart du temps, le stock est obtenu en spoliant les malheureux à leur arrivée. arrachés à leurs propriétaires, les objets sont alors placés dans des zones prévues à cet effet et distribués aux membres des orchestres. Chaque orchestre de détenus est donc composé de musiciens triés sur le volet. Ils sont recrutés par des responsables ou parfois par les SS eux-mêmes. Dès les premiers jours au camp, on demande aux nouveaux venus s'ils jouent d'un instrument. Des auditions sont menées, bien souvent au pied levé. Si cela s'avère concluant, alors un instrument leur est attribué. Il n'est pas rare aussi que les nazis en charge autorisent les détenus à envoyer une lettre à leurs proches. Leur but ? Se faire envoyer son propre instrument afin de garnir la collection amassée par les structures concentrationnaires. Les archives de Buchenwald permettent même de découvrir qu'un gérant de magasin de musique s'est fait envoyer la quasi-totalité des instruments présents dans sa boutique afin d'équiper différentes institutions nazies. La musique dans les camps, avant même l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, devient une arme à double tranchant. Parfois, elle peut permettre de sauver des vies. Bien souvent, les membres des orchestres dans les camps peuvent être mieux lotis que leurs condisciples. Parfois, en revanche, une perte de moyens lors d'une audition ou une pratique approximative d'un instrument peut entraîner la mort immédiate. Aussi fou que cela puisse paraître, on compose aussi dans les camps. Le cas de Brundibar à Theresienstadt ou du chant de Buchenwald au sein du camp éponyme ne sont pas des cas isolés. Ces deux œuvres permettent de voir à quel point les compositeurs et les musiciens sont prêts à prendre des risques et à faire passer des messages allant à l'encontre des ordres que peuvent leur donner leurs tortionnaires. Dans bien des cas, répétitions et autres moments de pratique permettent des prises d'initiative, des élans solidaires entre détenus. Chaque type de camp peut être amené à développer une structure musicale propre. Ainsi, Auschwitz-Birkenau, pourtant connu pour être l'un des pires camps de la mort, dispose d'un orchestre féminin et d'un autre masculin. L'art musical, au sein même de la terreur, se développe et gagne en importance. Il ne faut pas se leurrer pourtant. La vie au cœur des enfers reste une denrée fragile et certains musiciens, hélas, vont la prendre à leurs dépens. Baraquement où sont entassés des dizaines d'hommes les uns sur les autres, le musicien Shoni Alex Brown doit supporter la toux persistante d'un de ses condisciples. L'homme est de plus en plus malade. Le spectre de la mort semble le guetter. Il n'est pas le seul dans ce cas-là. Alors que le jeune homme tente de toutes ses forces de s'endormir, la porte du baraquement s'ouvre soudain avec fracas. Dans l'embrasure, un SS éméché fait lever tout le monde. Les capos, ces détenus complices des gardiens, rassemblent les malheureux face à l'officier. Ce dernier fait appeler les violonistes. Ils sont trois, dont Brown, à se présenter. Le nazi s'ennuie et cherche quelqu'un qui pourrait lui jouer ses airs favoris à la demande. Il vient là, en plein milieu de la nuit, faire passer au trio une audition. Celui qui remporte la timbale pourra profiter de rations alimentaires généreuses et de conditions améliorées. Le premier à se lancer décide de jouer du bac. La chaconne est une danse à trois temps populaire chez les professionnels de la musique. Il ne fait pas d'erreur. Avec légèreté, les notes s'enchaînent, voluptueuses, rempart à la terreur qui s'empare de tous les détenus. Mais le sous-officier, lui, ne semble pas sensible à l'œuvre magistrale de son compatriote. D'une moue déconfite, il fait un signe de la tête aux capots qui se sont glissés derrière les musiciens. D'un coup sec, sans prévenir, il fracasse le crâne de l'auditionné. L'homme tombe net, gisant dans une mare de sang. Sans aucune émotion, le SS appelle le deuxième homme. Mais le pauvre bougre, totalement décontenancé par la scène d'horreur à laquelle il vient d'assister, perd ses moyens. Tremblotant, dans l'impossibilité de reprendre le dessus, le capot l'étrangle sans qu'il ait pu jouer une note. Face au SS, il ne reste plus que Brown, qui n'emmène pas large. Comment va-t-il s'en sortir ? Jouer du bac, visiblement, n'est pas une bonne idée. Le musicien ne parvient pas non plus à rassembler ses idées comme il le voudrait. Tout est très instinctif. En un instant, il se décide. Du Strauss. L'air entraînant du beau Danube bleu se répand dans le baraquement. Brown loupe une de ses premières notes. Il ferme les yeux tout en continuant à jouer. Il s'attend, comme ses pauvres camarades, à sentir le souffle de la mort le saisir par la nuque. Mais non. Le SS semble convaincu, hoche la tête et bat même le rythme de son talon. De quoi sauver la vie du musicien? Rien ne le dit. À la fin de sa prestation, le capot s'avance et demande au sous-officier s'il doit tuer ou non le violoniste. Le SS, d'un geste, indique que Brown aura la vie sauve. Cet événement nous raconte que la musique dans les camps n'est pas toujours une alliée. Elle peut parfois conduire à la souffrance et à la mort. La hiérarchie très établie au sein des camps entraîne la nécessité pour les déportés de maîtriser différents styles musicaux afin de contenter leurs tortionnaires. Si les officiers en général aiment les marches militaires et les œuvres martiales, les gardiens et les SS du bas de l'échelle préfèrent nettement le jazz et des œuvres plus modernes. Dans les travées des camps, et si l'on accepte les marches utilisées à des moments répétés de la journée, c'est donc plutôt le jazz qui s'impose. Une musique pourtant américaine, mais qui a été reprise à son compte par le propagandiste en chef du régime, Joseph Goebbels. Dans le Troisième Reich, on produit un jazz blanc, arien, très apprécié à Berlin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'unité des leaders du régime sur ce point est totalement inexistante. Goebbels fait face à Rosenberg, qui en tant qu'idéologue du nazisme, développe et applique ce qu'il nomme les arts dégénérés. C'est bien simple. Pour être utilisée, une œuvre doit être issue d'un compositeur le plus arien possible. La fameuse musique allemande, notamment celle de Wagner, est celle qu'on porte aux nues. Le ministre de la propagande, lui, veut être plus malléable. Sa personnalisation du jazz à l'allemande est, par exemple, rejetée par Rosenberg, qui ne supporte pas l'idée qu'on puisse s'inspirer d'une musique américaine et non blanche. C'est le propre, au fond, du régime nazi. Tout y est mis en scène, codifié, et la musique, comme les autres disciplines artistiques, est mise au service du régime et de sa glorification. Le tout sans forcément faire preuve de cohérence. Cette guerre artistique, menée entre deux pontes du régime nazi, est à l'image du reste. Hitler est avant tout un grand partisan de la devise « diviser pour mieux régner ». Un coup, Goebbels obtient l'autorisation de mettre sur pied des groupes de jazz qui passent à la radio. Un coup, Rosenberg se voit conforté par le Führer dans sa politique d'exclusion musicale. Mais les années passant, le chef suprême ne va avoir de cesse d'être convaincu que la musique, comme le reste des strates de la société, doit être totalement épurée et transformée. Les musiciens des camps, et notamment les orchestres, de fait, deviennent les interprètes de cette dualité qui s'exprime à l'extérieur des lieux de terreur. Si les marches et autres rythmes binaires s'imposent au quotidien, notamment le matin et le soir, d'autres moments permettent d'autres types d'expression artistique. Certains commandants de camp, dont Koch, qui est certainement à Buchenwald l'un des plus mélomanes, font donner des concerts de musique classique à intervalles réguliers. Et puis, les notes sont parfois des témoins de la terreur. Il n'est pas rare que lors des punitions, ou pire, des exécutions de déportés, l'orchestre soit employé pour jouer des morceaux aux paroles évocatrices. Ils rendent les moments d'horreur plus sadiques. Les tortionnaires prennent plaisir à faire résonner des œuvres légères lors des moments de mise à mort. Des marches de cirque au plus grand succès de Mozart ou de Strauss, notamment son beau Danube bleu. Parfois, les nazis utilisent les systèmes de haut-parleurs des camps pour réveiller les pauvres âmes en plein milieu de la nuit. Cela s'inscrit dans une stratégie plus globale et institutionnalisée de l'épuisement des prisonniers, afin d'éviter toute tentative de résistance ou d'évasion, par exemple. De ce fait, musique et chant deviennent des armes utilisées pour museler et juguler les détenus, sans pour autant que les hautes sphères du régime ne fassent passer des ordres clairs et précis à ce sujet. Certains témoignages rapportent que des opposants communistes ont dû, tout en creusant leur tombe, chanter l'Internationale. Mais cette torture musicale se décide à l'échelle des commandants de camp et non dans le bureau d'Hitler. A contrario, les moments de répétition, eux, peuvent parfois permettre l'expression d'une forme de solidarité ou de résistance. Les camps ne sont pas des zones silencieuses, imperméables aux nouveautés artistiques du monde extérieur. Au cœur de l'indicible, les instruments et les chants sont des compagnons aux utilités diverses et aux usages variés. Il n'empêche, malgré la volonté affichée et appliquée de museler les tentatives d'union, certains camps nazis sont connus pour avoir été le théâtre de multiples tentatives de rébellion et plus encore de résistance. La musique au cœur de ces moments de soulèvement va souvent jouer un rôle essentiel. Au tri des vêtements fraîchement arrivés au camp, compose ces vers acides, acerbes. Ce n'est que lorsque le soir est venu, la faim et le doute au creux du ventre, que l'opérette revue peut prendre toute sa mesure.